Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Frère Philippe, bonjour.
Nous sommes toujours dans le catéchisme, dans cet article « Jésus-Christ est descendu aux enfers et ressuscité des morts le troisième jour ». Nous avons plusieurs fois parlé de ce qu'on appelle en fait les fins dernières.
Les fins dernières, exactement.
Et
oui.
Donc la question de quoi après la mort, ce jugement de Dieu, ces enfers, la purification qu'on appelle le purgatoire. Ça me rappelait une chose. Il m'arrivait plus d'une fois que des personnes avec qui je parle, qui voulaient parler un peu de la foi, certaines se désolent qu'on ne parle plus des fins dernières et pensent que beaucoup de gens n'entendent plus parler des fins dernières, n'entendent plus parler de purgatoire, enfer, paradis, de cet amour de Dieu qui veut nous conduire à la vie avec lui, mais aussi nous alerte sur le fait qu'il y a le salut de Dieu et notre réponse va avoir des conséquences. Certains pensent qu'il n'y a pas assez de prédication sur les fins dernières. Peut-être est-il intéressant de reconnaître que ce qu'ils disent n'est pas sans fondement, mais peut-être faut-il comprendre pourquoi c'est devenu difficile aujourd'hui, à ton avis.
Alors il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. C'est que d'abord le style de la prédication a volontairement, pastoralement changé. On a voulu lire davantage, d'une manière proche, les évangiles qui étaient donnés chaque dimanche, avec une grande richesse. Et c'est vrai que les évangiles en parlent de manière relativement modeste sur les descriptions que nous avons données. Et donc, cela nous invite, dans les évangiles, surtout à écouter la voix du Seigneur pour le temps présent. Et c'est ce temps présent qui est finalement important. Comment allons-nous rectifier notre conscience? Comment allons-nous agir d'une manière conforme à ce que nous donne Jésus-Christ? Et finalement, on comprend que le Christ est cause du salut pour ceux qui lui obéissent. Donc on va insister sur cette obéissance pour le temps présent. C'est l'expression d'Hébreux chapitre 9, verset 15. Jésus-Christ est cause du salut pour ceux qui lui obéissent. Et donc, cette obéissance, on va essayer de la caractériser pour que les personnes restent, je dirais, dans le bon sillon. Et le sillon mène, bien sûr, à l'eschatologie. On en parle moins, mais quand même, dans tous les textes de la messe, on évoque toujours le ciel, on évoque toujours le retour du Christ dans la gloire, on récite le credo. Donc, d'une certaine manière, on reprend toujours ces éléments, mais c'est vrai que la prédication étant relativement brève, à cause de pressions que le clergé a reçues, et elle est tombée à 9-10 minutes, on n'est plus avec des longues, je dirais, prédications qui duraient une demi-heure, et on sent bien, dès qu'il y a une prédication qui dépasse un peu, ça remue un peu sur les bancs. Et donc, on comprend très bien qu'il a fallu faire une sorte de prédication qui soit plus directement en lien avec le moment présent où les personnes sont appelées à agir d'une manière christo-conforme, plutôt que de les emmener dans des méditations sur l'au-delà. Alors, c'est pour cela qu'on a donné aussi des outils aux chrétiens, je dirais à cause du déficit reconnu de cette prédication un peu limitée. C'est pas qu'il y a un déficit volontaire, mais c'est une limite volontaire et qui permet ces outils d'aller plus loin. Et le catéchisme de l'Église catholique est justement un très bon instrument que le pape Saint Jean-Paul II a voulu pour permettre que les chrétiens ne s'affadissent pas sur certains domaines de la foi, en particulier de ce qu'on appelle les fins dernières, l'eschatologie, pour prendre le mot savant. Et donc, il n'y a aucune opposition entre la prédication des anciens et la prédication des modernes, je dirais. Il y a une insistance, c'est vrai, plus forte sur l'évangile du jour et qui a conduit donc à ce type de prédication qui est plus ramassée, plus courte et plus directement sur les pas d'aujourd'hui. Mes pas, disait saint Augustin, c'est ma volonté. Et donc, où est ma volonté pour aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour être Christo-conforme? Dans le fond, c'est la grande question de cette rectification qui est demandée à chacun.
Oui. Du reste, dans cette attente, parfois ce reproche que l'on peut entendre, je ne sais pas si toi-même tu l'entends, de dire qu'il manque une prédication sur les fins dernières, peut-être y a-t-il l'idée que prêcher sur les fins dernières suscite une sorte d'électrochoc, enfin, ça crée une certaine peur de l'enfer, qu'on n'a pas assez la peur de l'enfer. Alors, je ne sais pas si c'est très juste de parler comme ça, même si dans l'histoire on voit le rapport au paradis, le rapport à l'enfer, un rapport de peur, il est évident qu'on n'a pas le désir de l'enfer, si on, comme tu dis, si on est christoformé. Mais au vu de ce que nous avons pu dire dans tous ces derniers échanges, il ressortait beaucoup quand même de nos discussions que tout ça révèle beaucoup ce que Dieu veut pour nous, cet amour par lequel il veut nous conduire auprès de lui. C'est bien au-delà de la peur, c'est quand même un mouvement très positif d'aller là où Dieu nous veut vivants, nous veut heureux, nous veut vivants de la vie de Dieu.
Oui, alors peut-être qu'on a mis la barre un peu haute, je reconnais que passer de la crainte servile à la crainte filiale, on ne le fait pas d'une manière évidente chacun. Il y a des moments dans la vie, et c'est vrai que ne prêcher que la crainte filiale, l'amour en somme, et c'est vrai que saint Augustin par exemple est un grand maître en la matière, puisqu'il dit que la raison principale de la venue du Christ sur la terre, c'est l'amour. Okay. Oui. On n'a qu'à prêcher l'amour d'une certaine manière. Mais c'est vrai que nos contemporains ont mis derrière le mot amour bien autre chose que l'agapé, cet amour, je dirais, oblatif que Jésus nous a montré, un amour qui descend dans nos misères et qui nous purifie de nos péchés. Et donc un amour qui est marqué par la croix du Seigneur. On oublie parfois, quand on dit le mot amour, il y a parfois une espèce d'évaporation dans quelque chose qui est un petit peu cool, un petit peu facile, etc. Et qu'on oublie que le chemin, la vérité et la vie est aussi celui de prendre la croix à la suite du Christ. Et je pense que c'est lié à cette situation dans laquelle peut-être, après des prédications, je dirais, trop fortes sur la souffrance, trop fortes sur la peur de la mort, etc., on a fait balancer les choses à une autre extrémité. Et comme toujours, les excès ne sont pas équilibrés. Il faut toujours retrouver un juste milieu et savoir régulièrement. Alors peut-être que pendant la Semaine Sainte, à côté de la liturgie qui pose ces questions d'eschatologie d'une manière très forte, on devrait, dans les communautés chrétiennes, faire des pauses de Lectio Divina, des pauses d'écriture, des pauses de magistère, pour méditer ce qui est enseigné au niveau de la foi universelle, et donner des conférences, donner des à côté de la liturgie qui est très silencieuse, parce qu'on écoute la parole de Dieu, on est en face du mystère et on est conduit au mystère, et le mystère réclame un certain silence, mais donner à côté, d'une manière paraliturgique peut-être, des moyens pour consolider cette foi, en particulier vis-à-vis des jeunes qui n'ont pas du tout connu ces prédications terrorisantes, etc. Je me souviens un jour, un de nos vieux pères disait « il ne faut plus terroriser les gens dans le confessionnal ». J'ai jamais, moi, de ma vie, eu une seule prédication terrorisante. Et je suis déjà considéré comme quelqu'un qui a un peu de bouteille, quand même.
Oui, pas un petit jeune.
Pas un petit jeune. Donc je me dis mais d'où sortait-il cela qu'on pouvait terroriser encore les gens? C'est un peu que lui, qui avait peut-être 20 ou 30 ans de plus âgé que moi, avait connu une période avant le concile où on n'hésitait pas à faire un petit peu passer par la crainte, je dirais, servile. On faisait un petit peu peur aux gens, une peur qui est tout à fait légitime, puisque c'est dans l'Écriture. On ne doit rien retirer de l'Écriture. C'est ça qu'il faut toujours revenir. C'est ça notre diapason à tous, c'est de se dire, l'Écriture donne tout ce qu'il faut pour avoir la lumière, pour avoir la vérité complète, et ben, il faut la recevoir entièrement. Si je commence à masquer des parties de l'Écriture, je suis hors chemin. Et j'empêche la lumière à se faire progressivement dans chaque âme. Et je ne peux pas aller plus vite que la rapidité des âmes. Il y a des âmes qui sont lentes, qui ont besoin de passer par la crainte servile pour arriver à la crainte filiale. On ne peut pas dire monsieur le curé a décidé que tout le monde était au niveau de la crainte filiale et on y est. Non. C'est une naïveté, je dirais, et presque un irrespect des âmes, que je crois que de ne pas leur permettre ces progrès et ces approfondissements de l'Écriture, comme disait Saint Grégoire le Grand, à chaque fois qu'on lit l'Écriture, on l'approfondit parce qu'on a besoin de ce que le Verbe de Dieu petit à petit s'incarne en nous-mêmes et nous transforme du dedans pour effectivement être de plus en plus dans la certitude que Dieu est amour.
Eh oui, il y a un déficit dans l'approche de l'Écriture. Il y a une façon de la lire qui ne va pas au texte mais qui en fait prétexte à ce qu'on a envie, ce qu'on pense de devoir dire, et finalement on l'appauvrit. C'est vraiment un appel à entrer dans l'Écriture d'une manière honnête, heureuse, mais ferme.
Ferme, exactement. Et de transmettre ce qu'on a transmis. Regardez au numéro 639, la première chose qu'on rappelle sur la résurrection du Christ, c'est la parole de saint Paul. « Je vous ai donc transmis ce que j'avais moi-même reçu. » À savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze, puis à lui-même. Quoi, c'est très beau. Cet appui de saint Paul sur les Écritures.
Selon les Écritures.
Abandonner, de ne pas privilégier seulement certains textes au détriment des autres, mais les donner tous intégralement, et ça je crois qu'il y a un effort permanent que nous avons à faire.
Merci frère Edouard.
À bientôt.